La timide, deuxième partie, chapitre 1, le rêve de l'orgueil. Lukeria m'a déclaré il y a un moment qu'elle ne restera pas chez moi, qu'elle s'en ira aussitôt après l'enterrement de madame. J'ai essayé de prier, mais au lieu de prier, j'ai pensé. Et toutes mes pensées sont malades. Il est étrange aussi que je ne puisse dormir. Après les grands chagrins, il y a toujours comme une crise de sommeil. On dit aussi que les condamnés à mort dorment d'un sommeil profond leur dernière nuit. C'est presque forcé, la nature le veut. Je me suis jetée sur un divan et je n'ai pas dormi. Pendant les 6 semaines de la maladie de ma femme, nous l'avons soignée, Lukeria et moi, avec l'aide d'une sœur de l'hôpital. Je n'ai pas épargné l'argent. Je voulais dépenser tout ce qu'il fallait, et plus, pour elle. C'est Schrader que j'ai pris pour médecin, et je lui ai payé 10 roubles par visite. Lorsqu'elle a commencé à reprendre connaissance, je me suis plus rarement montrée dans sa chambre. Pourquoi, d'ailleurs, racontais-je tout cela? Quand elle a pu se lever, elle s'est assise dans ma chambre, à une table séparée, à une table que je lui ai achetée alors. Nous ne parlions guère, et rien que des événements quotidiens. Ma taciturnité était voulue, mais j'ai vu qu'elle non plus n'avait guère envie de causer. « Elle sent encore trop sa défaite, pensais-je. Il faut qu'elle oublie et s'habitue à sa nouvelle situation. » Nous nous taisions donc le plus souvent. Personne ne saura jamais à quel point j'ai souffert de cacher mon chagrin pendant sa maladie. J'ai gémi au-dedans de moi-même sans que Lukeria elle-même pût se douter de mes angoisses. Quand ma femme a été mieux, j'ai résolu de me taire le plus longtemps possible sur notre avenir, de tout laisser dans l'état pour l'instant. Ainsi s'est passé tout l'hiver. Voyez-vous, j'ai toujours souffert aussi d'un chagrin de toutes les heures depuis que j'ai quitté le régiment, après avoir perdu ma réputation d'homme d'honneur. On s'était conduit envers moi aussi de la façon la plus tyrannique. Et il faut dire que mes camarades ne m'aimaient pas à cause de mon caractère difficile, ridicule, disait-on. Mais voilà, ce qui vous semble beau et élevé en vous prête à rire, on ne sait pourquoi, à la foule de vos camarades. Du reste, il faut dire qu'on ne m'a jamais aimé nulle part, pas plus à l'école qu'ailleurs. Lukeria elle-même ne peut pas me souffrir. Ce qui m'est arrivé n'aurait été rien sans l'animadversion de mes camarades. Et il est assez triste pour un homme intelligent de voir sa carrière brisée pour une niaiserie. Voici le malheur dont j'ai été victime. Un soir, au théâtre, pendant l'entracte, j'entrais au ballet. Un officier de hussards, A, fit irruption dans la buvette et à voix haute, en présence de beaucoup d'officiers et d'autres spectateurs, se mit à causer avec 2 de ses camarades de grade d'un capitaine de mon régiment, nommé Bezoumetsev. Il affirmait que ce capitaine était ivre et avait causé du scandale. Il y avait erreur. Le capitaine Bezoumetsev n'était pas ivre et n'avait rien fait de scandaleux. Les officiers se mirent à parler d'autre chose et l'incident fut clos. Mais le lendemain, l'histoire fut connue chez nous, et l'on colporta aussitôt que j'étais le seul officier du régiment présent quand A avait parlé insolemment de Bezoumetsev et que je l'avais laissé faire. Pourquoi serais-je intervenu? Si A avait des griefs contre Bezoumetsev, cela le regardait, et je n'avais pas à me mêler de la querelle. Mais on s'avisa de trouver que l'affaire touchait à l'honneur du régiment et que j'avais mal agi en ne prenant pas la défense de Bezoumetsev. Qu'on irait dire que notre régiment renfermait des officiers moins chatouilleux que les autres sur le point d'honneur, que je n'avais qu'un moyen de me réhabiliter, à savoir réclamer une explication de A. Je m'y refusais, et comme j'étais irritée par le ton de mes camarades, mon refus prit une forme assez hautaine. Je donnai aussitôt ma démission et m'en fus, hautain, mais le cœur brisé. Mon esprit fut très frappé, mon énergie m'abandonna. Ce fut ce moment que choisit mon beau-frère de Moscou pour dissiper le peu de fortune qui nous restait. Ma part était minime, mais comme je n'avais plus que cela, je me trouvais sur le pavé, sans un sou. J'aurais pu trouver quelque place, mais je n'en cherchais pas. Après avoir porté un si brillant uniforme, je ne pouvais me résigner à me faire scribe dans quelque bureau de chemin de fer. Si c'est une honte pour moi, que ce soit une honte, tant pis. Après cela, j'ai 3 années d'affreux souvenirs. C'est à cette époque que je connus l'asile de Vyazemsky. Il y a 1 an et demi, ma marraine est morte à Moscou. C'était une vieille femme fort riche, et à ma grande surprise, elle me laissa 3 000 roubles. J'ai réfléchi, et tout de suite mon sort a été fixé. Je me suis décidée à ouvrir cette caisse de prêt, sans m'inquiéter de ce que l'on en penserait. Gagner de l'argent afin de pouvoir me retirer quelque part, loin des souvenirs anciens. Tel fut mon plan. Et pourtant, mon triste passé et la conscience de mon déshonneur m'ont fait souffrir à chaque heure, à chaque minute. C'est alors que je me mariai. En amenant ma femme chez moi, je crus introduire une amie dans ma vie. J'avais tant besoin d'amitié. Mais j'ai vu qu'il faudrait préparer cette amie à la vérité qu'elle ne pourrait comprendre de but en blanc à 16 ans, avec tant de préjugés. Sans l'aide du hasard, sans cette scène du revolver, comment aurais-je pu lui prouver que je n'étais pas un lâche ? En bravant ce revolver, j'ai racheté tout mon passé. Cela ne s'est pas su au dehors, mais elle a su, et cela m'a suffi. N'était-elle pas tout pour moi ? Pourquoi a-t-elle appris l'autre histoire ? Pourquoi s'est-elle jointe à mes ennemis ? Pourtant, je ne pouvais plus passer pour un lâche à ses yeux. Ainsi s'écoula tout l'hiver. J'attendais toujours quelque chose qui ne venait pas. J'aimais à regarder en cachette ma femme assise à sa petite table. Elle s'occupait d'un travail de lingerie ou lisait, surtout le soir. Elle n'allait presque nulle part, ne sortait pour ainsi dire plus. Parfois, cependant, je lui faisais faire un tour vers la fin de la journée. Nous ne nous promenions plus en silence comme auparavant. Je tâchais de causer, sans aborder aucune explication, car je gardais tout cela pour plus tard. Pendant tout cet hiver, je ne vis jamais son regard se fixer sur moi. « C'est timidité, pensais-je. C'est faiblesse. Laisse-la faire, et elle reviendra d'elle-même à toi. » J'aimais fort à me flatter de cet espoir. Quelquefois, pourtant, je m'amusais, en quelque sorte, à me rappeler mes griefs, à m'exciter contre elle. Mais jamais je ne parvins à la haïr. Je sentais que c'était comme en jouant que j'attisais mes rancunes. J'avais rompu le mariage en achetant le lit et le paravent, mais je ne savais pas la regarder en ennemie, en criminelle. Je lui avais entièrement pardonné son crime, dès le premier jour, même avant d'avoir acheté le lit. Bref, je m'étonnais moi-même, car je suis plutôt de nature sévère. Était-ce parce que je la voyais si humiliée, si vaincue? Je la plaignais, bien que l'idée de son humiliation me plût. Pendant cet hiver, je fis exprès quelques bonnes actions. Je tins quitte de leurs dettes 2 débiteurs insolvables, et j'avançai de l'argent à une pauvre femme sans lui demander de gage. Si ma femme le sut, ce ne fut pas par moi. Je ne désirais pas qu'elle l'apprît. Mais la pauvre malheureuse vint d'elle-même me remercier presque à genoux, en sa présence. Il me sembla que ma femme avait apprécié mon procédé. Mais le printemps revint. Le soleil éclaira de nouveau notre logement mélancolique. et ce fut alors que le voile tomba de devant mes yeux. Je vis clair dans mon âme obscure et obtuse. Je compris ce que mon orgueil avait de diabolique. Ce fut tout d'un coup que cela arriva un soir, vers 5 heures, avant le dîner. Chapitre 2. Le voile tombe subitement. Il y a un mois, je remarquai chez ma femme une mélancolie plus profonde qu'à l'ordinaire. Elle travaillait, assise, la tête penchée sur une broderie, et ne vit pas que je la regardais. Je l'examinai avec plus d'attention que je ne le faisais d'habitude, et fus frappé de sa maigreur et de sa pâleur. J'entendais bien depuis quelque temps qu'elle avait une petite toux sèche, la nuit surtout, mais je n'y prenais pas garde. Mais ce jour-là, je courus chez Schrader pour le prier de venir tout de suite. Il ne put lui faire sa visite que le lendemain. Elle fut très étonnée de le voir. « Mais je me porte très bien, » fit-elle avec un sourire vague. Schrader ne sembla pas trop se préoccuper de son état. Ces médecins sont parfois d'une négligence qui frise le mépris. Mais quand il se trouva seul avec moi dans une autre pièce, il me dit que cela ne dépendait pas de ma femme, qu'il serait bon de partir au printemps, de nous installer au bord de la mer ou à la campagne. Bref, il fut économe de ses paroles. Quand il fut parti, ma femme me répéta « Mais je vais tout à fait bien, tout à fait bien !» Elle rougit. Et je ne compris pas encore de quoi elle rougissait. Elle avait honte que je fusse encore son mari, que je la soignasse comme un mari véritable. Mais sur le moment, je ne saisis pas. Un mois plus tard, par un soir de clair soleil, j'étais assis devant ma caisse, faisant mes comptes. Tout à coup, j'entendis ma femme, qui, dans sa chambre, chantait tout bas. Cela me fit une impression foudroyante. Elle n'avait plus jamais chanté depuis les tout premiers jours de notre mariage, alors que nous pouvions encore nous amuser en tirant à la cible ou en nous distrayant à des niaiseries semblables. À cette époque, sa voix était assez forte, pas trop juste, mais fraîche et agréable. Mais à présent, cette voix était si faible, avec quelque chose de brisé, de fêlé. Elle toussa, puis chanta de nouveau, encore plus bas. On va se moquer de mon agitation, mais je ne puis dire combien je fus inquiet. Je n'avais pas, si vous voulez, pitié d'elle. C'était chez moi comme une perplexité étrange et terrible. Il y avait aussi dans mon sentiment quelque chose de blessé, d'hostile. Comment ? Elle chante ? A-t-elle donc oublié ce qui s'est passé entre nous ? Tout bouleversé, je pris mon chapeau et sortis. Lukeria m'aida à passer mon par-dessus. « Elle chante !» lui dis-je involontairement. La bonne me regarde sans comprendre. « Est-ce la première fois qu'elle chante ? » repris-je. « Non, elle chante quelquefois quand vous n'êtes pas là. » Je me rappelle tout. Je descendis l'escalier, sortis dans la rue et marchai au hasard. J'arrivai à l'angle de la rue, m'arrêtai et regardai les passants. On me heurta, mais je n'y pris pas garde. J'appelai un cocher et lui dis de me conduire au pont de la police. Pourquoi ? Puis je me repris brusquement, donnai 20 copecks au cocher pour son dérangement et m'en fus vers la maison, comme en extase. La petite note fêlée de la voix sonnait dans mon âme, et le voile tomba. Si elle chantait si près de moi, c'est qu'elle m'avait oublié. C'était terrible, mais cela m'extasiait, et j'avais passé tout l'hiver sans comprendre. Je ne savais plus alors où était mon âme. Je remontai précipitamment chez moi, j'entrai avec timidité. Elle était toujours assise à son ouvrage, mais ne chantait pas. Elle me regarda, avec quelle indifférence, comme on regarde le premier venu qui entre. Je m'assis tout près d'elle. J'essayais de lui dire la première chose venue. « Causons, tu sais... » Je balbutiai. Je lui pris la main. Elle se rejeta en arrière comme terrifiée. Puis elle me regarda avec un étonnement sévère. Oui, il était sévère, son étonnement. Elle semblait me dire « Comment ? Tu oses encore me demander de l'amour ?» Elle se taisait, mais je comprenais son silence. Je tombai à ses pieds. Elle se leva, mais je la retins. Ah ! Comme je comprenais bien mon désespoir ! Mais j'éprouvais en même temps une telle extase que je crus mourir. Je pleurais, je parlais sans savoir ce que je disais. Elle paraissait honteuse de me voir prosternée devant elle. Je baisai ses pieds. Elle recula et je baisai la place que ses pieds avaient occupée sur le plancher. Elle se mit à rire de honte, me semble-t-il bien. Ah, rire de honte. Une crise nerveuse approchait. Je le voyais, mais je ne pouvais cesser de balbutier. « Donne-moi le bas de ton vêtement que je le baise. Je veux passer ma vie ainsi à tes pieds. » Tout à coup, la crise vint. Elle se mit à sangloter, à trembler de la tête aux pieds. Je la portai sur son lit. Quand elle se sentit un peu remise, elle me prit les mains et me pria de me calmer. Elle recommença à pleurer. De toute la soirée, je ne la quittai pas. Je lui dis que je l'emmènerais au bain de mer, à Boulogne, dans 2 semaines, qu'elle avait une petite voix si faible, si brisée, que je vendrais ma caisse de prêt à Dobron-Ranvov, qu'une vie nouvelle allait commencer à Boulogne. À Boulogne ! Elle écoutait, mais prit peur de plus en plus. J'avais un besoin fou d'embrasser ses pieds. « Je ne te demanderai plus rien » répétai-je. « Ne me réponds pas, ne fais pas attention à moi. Permets-moi seulement de te regarder. Je veux être ta chose, ton petit chien. » Elle pleurait. « Et moi, qui pensais que vous me laisseriez à l'écart ?» dit-elle sans le vouloir. Oh, ce fut la parole la plus décisive, la plus fatale de la soirée, celle qui acheva de me faire tout comprendre. Vers la nuit, elle était sans force. Je la suppliai de se coucher. Elle s'endormit profondément. Jusqu'au matin, je ne pus reposer. Je me levais à chaque instant pour venir la regarder, sans bruit. Je me tordais les mains en voyant ce pauvre être malade sur ce pauvre petit lit de fer que j'avais payé 3 roubles. Je me mettais à genoux, mais je n'osais baiser ses pieds tandis qu'elle dormait, sans sa permission. Lukeria ne se coucha pas. Elle semblait me surveiller, sortait à chaque moment de la cuisine. Je lui dis de se coucher, de se rassurer, que demain une vie nouvelle commencerait. Et je croyais à ce que je disais. J'y croyais tellement et aveuglément. L'extase m'inondait. Je n'attendais que l'aurore du jour suivant. Je ne croyais aucun malheur imminent malgré ce que j'avais vu. Demain, elle se réveillera, me disais-je, et je lui expliquerai tout, elle comprendra tout. Et le projet de voyage à Boulogne m'enthousiasmait. Boulogne, c'était le salut, le remède à tout. Tout espoir résidait en Boulogne, comme j'attendais le matin. Chapitre 3. Je ne comprends que trop. Et il n'y a que 5 jours de tout cela. Le lendemain, elle m'écouta en souriant, bien qu'elle fût encore effrayée. Et pendant 5 jours, elle fut tout le temps effrayée et comme honteuse. À certains moments, elle montra même une très grande peur. Nous étions devenus si étrangers l'un à l'autre. Mais je ne m'arrêtais pas à ses craintes. Le nouvel espoir brillait. Je dois dire que quand elle s'éveilla, c'était le mercredi matin, je commis une grande faute. Je lui fis une confession brutalement sincère. Je ne lui tus pas ce que je m'étais jusque-là caché à moi-même. Je lui dis que tout l'hiver j'avais encore cru à son amour, que la caisse de prêt, c'était une sorte d'expiation que je m'imposais. À la buvette du théâtre, en effet, j'avais eu peur, mais peur de ma propre nature. Et puis, le lieu où je me trouvais me semblait un endroit mal choisi pour une provocation, un endroit bête. Et j'avais craint, non le duel, mais l'apparence bête d'un duel né là, dans une buvette. J'avais ensuite souffert mille tourments de cette histoire, et ne l'avais peut-être épousée que pour la tourmenter, pour me venger de mes propres tourments sur quelqu'un. Je parlais comme dans la fièvre. Elle me prenait les mains et me conjurait de cesser. « Vous exagérez, » me disait-elle. « Vous vous faites du mal. » Elle pleurait et me suppliait de tâcher d'oublier. Mais je ne m'arrêtais pas. J'en revenais à mon idée de Boulogne. Là, notre destinée s'éclairerait d'un nouveau rayon de soleil. J'en radotais. Je cédais ma case de prêt à Dobron-Ravov. Je proposais à ma femme de distribuer aux pauvres tout ce que j'avais gagné, de ne garder que les 3 000 roubles de ma marraine, avec lesquels nous partirions pour Boulogne. Après cela, nous reviendrions en Russie et entreprendrions de vivre de notre travail. Je m'arrêtai à ce dernier parti parce qu'elle ne disait rien contre. Elle se taisait et souriait. Je crois maintenant qu'elle ne sourit que par délicatesse pour ne pas m'affliger. Je sentis que je l'excédais et ne sus pas me taire. Je lui parlais d'elle et de moi. Sans répit. J'allais même jusqu'à lui raconter je ne sais quoi de Loukéria, mais j'en revenais toujours à ce qui me tourmentait. Pendant ces 5 jours, elle-même s'anima une ou deux fois. Elle me parla de livres, se mit à rire en pensant à la scène de Gil Blas avec l'archevêque de Grenade qu'elle avait lue. Quel rire enfantin elle avait! Son rire du temps où elle était encore fiancée. Mais, hélas, devant mon extase, elle crut que je lui demandais de l'amour, moi, le mari, quand elle n'avait pas caché qu'elle espérait être laissée à l'écart. Oui, comme j'eus tort de la regarder avec extase. Pas une fois pourtant je ne me posais en mari qui réclamait ses droits. J'étais simplement comme en prière devant elle. Mais je lui dis sottement que sa conversation me transportait, que je la considérais comme bien plus instruite et intelligente que moi. Je fus assez fou pour exalter devant elle mes sentiments de joie et d'orgueil. Au moment où, caché derrière la porte, j'avais écouté sa conversation avec Efimovitch, où j'avais assisté à ce duel de l'innocence contre le vice. Combien j'avais admiré son esprit, goûté ses moqueries, ses fins sarcasmes. Elle me répliqua que j'exagérais encore. Mais tout à coup, elle se couvrit la figure de ses mains et se mit à sangloter. Je tombai de nouveau à ses pieds, et tout finit par une attaque de nerfs qui la terrassa. C'était hier soir. Hier soir. Et le matin, fou que je suis, le matin, c'était ce matin, aujourd'hui, tout à l'heure. Quand, un peu remise, elle se leva ce matin, nous prîmes le thé, l'un à côté de l'autre. Elle était admirablement calme, mais brusquement elle se leva, s'approcha de moi, joignit les mains et s'écria qu'elle était une criminelle, qu'elle le savait, que son crime l'avait tourmentée tout l'hiver, qu'il la tourmentait encore, qu'elle était accablée par ma générosité. « Oh, je serai toujours une femme fidèle à présent, je vous aimerai et vous estimerai. » Je lui sautai au cou, je l'embrassai, je baisai ses lèvres en mari qui retrouve sa femme après une longue séparation. Pourquoi, fût-ce alors que je la quittais pour 2 heures, le temps d'aller prendre nos passeports pour l'étranger? Oh Dieu, si j'étais rentrée seulement 5 minutes plus tôt! Oh, cette foule auprès de notre porte, ces gens qui me dévisageaient! Oh Dieu! Loukéria a dit « Maintenant, je ne me séparerai de Loukéria pour rien au monde. » Elle a tout vu, cet hiver, Loukéria. Elle dit donc que pendant mon absence, peut-être 20 minutes avant mon retour, Elle est entrée dans la chambre de ma femme pour lui demander quelque chose, je ne sais plus quoi, et que ma femme avait enlevé de l'armoire la sainte image, l'icône dont j'ai déjà parlé. L'icône était devant elle, sur la table. Ma femme avait dû prier. Lukeria lui a demandé « Qu'avez-vous donc, madame ?»«
Rien, Lukeria. Allez, attendez, Lukeria. »
Et elle l'a embrassée.
« Êtes-vous heureuse, madame ?»«
Oui, Lukeria. »
« Il y a longtemps que monsieur aurait dû vous demander pardon. Tant mieux que vous soyez réconciliés. Dieu soit loué. »«
C'est bien, Lukeria, c'est bien. Allez-vous-en. » Elle a souri, ma femme, mais sourit étrangement, si étrangement que Lukeria n'est restée que 10 minutes hors de la chambre, est revenue inopinément pour voir ce qu'elle faisait. Elle était debout, tout près de la fenêtre, et tellement pensive qu'elle ne m'a pas entendue entrer. Elle s'est retournée sans me voir. Elle souriait encore. Je suis sortie. Mais à peine l'avais-je perdue de vue que j'ai entendu ouvrir la fenêtre. Je suis rentrée pour lui dire qu'il faisait frais, qu'elle pourrait prendre froid. Mais elle était montée sur l'appui de la fenêtre. Elle était debout, toute droite, tenant à la main l'image sainte. Épouvantée, je l'ai appelée. « Madame, madame !» Elle a fait un mouvement, comme pour se retourner vers moi. Mais, au lieu de cela, elle a enjambé la barre d'appui, a pressé l'image contre sa poitrine et s'est jetée dans le vide. Quand je suis entrée, moi, elle était encore tiède, et il y avait là du monde qui me regardait. Tout à coup, on m'a fait place. Je me suis approchée d'elle. Elle était couchée tout de son long, son image sainte était sur elle. Je l'ai regardée longtemps. Tout le monde m'a entourée, m'a parlé. On me dit que j'ai parlé avec Lukeria, mais je ne me souviens que d'un petit bourgeois qui me répétait sans cesse « Il lui est sorti du sang de la bouche, gros comme le poing !» Il me montrait du sang dans la chambre et recommençait à dire « Gros comme le poing, gros comme le poing !» Je touchais du doigt le sang, je regardais ce doigt, et l'autre insistait « Gros comme le poing !» Gros comme le poing. Chapitre 4. Je n'étais en retard que de 5 minutes. Oh, n'est-ce pas impossible? N'est-ce pas invraisemblable? Pourquoi cette femme est-elle morte? Je comprends, je comprends. Mais pourquoi est-elle morte? Elle a eu peur de mon amour. Elle se sera interrogée. Puis-je m'y soumettre? Le puis-je ou non? Et cette question l'aura affolée. Elle aura préféré mourir. Je sais, je sais. Il n'y avait pas là de quoi se casser la tête. Mais elle avait fait trop de promesses. Elle se sera dit qu'elle ne pouvait les tenir. Mais pourquoi est-elle morte? Je l'aurais laissée à l'écart si elle y avait tenu. Mais non, ce n'est pas cela. Elle a pensé qu'il faudrait m'aimer pour de bon, honnêtement. Pas comme si elle avait épousé le marchand. Elle ne voulait pas me tromper en ne me donnant qu'un demi-amour, un quart d'amour. Elle était trop honnête, et voilà tout. Et moi qui cherchais à lui inculquer une certaine largeur de conscience. Vous rappelez-vous? Quelle étrange idée! M'estimait-elle? Me méprisait-elle? Dire que pendant tout cet hiver, la pensée ne m'est pas venue qu'elle pouvait me mépriser. J'étais, au plus haut point, persuadée du contraire, jusqu'au moment où elle m'a regardée avec tant d'étonnement. Vous savez bien, cet étonnement sévère. C'est alors que j'ai compris qu'elle pouvait me mépriser. Ah, comme je consentirais à ce qu'elle me méprisât pour l'éternité, si seulement elle vivait. Tout à l'heure, elle parlait encore, elle marchait, elle était. Mais pourquoi se jeter par la fenêtre? Ah, je n'y pensais guère 5 minutes auparavant. J'ai appelé Lukeria. Pour rien au monde, je ne laisserai Lukeria partir à présent. Pour rien au monde. Mais
Nous pouvions si bien reprendre l'habitude de nous entendre. Il n'y avait qu'une chose. Nous étions affreusement déshabitués l'un de l'autre. Mais nous aurions surmonté cela. Nous aurions commencé une vie nouvelle. J'avais bon cœur, elle aussi. En 2 jours, elle aurait tout compris. Oh, quel hasard barbare, aveugle! 5 minutes. Je n'ai été en retard que de 5 minutes. Si j'étais arrivé 5 minutes plus tôt, l'affreuse tentation de suicide serait maintenant dissipée en elle. Elle aurait compris à l'heure qu'il est. Et voici de nouveau mes chambres vides. Me voici encore seule. Le balancier de la pendule, bah, bah. Tout lui est indifférent à lui. Il n'a pitié de rien. Je n'ai plus personne. Je marche toujours. Ah, cela vous paraît ridicule de m'entendre me plaindre du hasard et de 5 minutes de retard. Mais réfléchissez, elle n'a même pas laissé un billet. Qu'on n'accuse personne de ma mort, comme tout le monde en laisse. Et si l'on avait soupçonné Lucéria, on pouvait dire qu'elle était auprès d'elle, l'avait poussée. Il est vrai qu'il y a eu 4 personnes qui l'ont vue debout sur sa fenêtre, son image sainte à la main, et qui ont su qu'elle s'était jetée dans le vide, qu'elle s'était jetée, qu'on ne l'avait pas poussée. Mais c'est par hasard que ces 4 personnes étaient là. Et si ce n'est qu'un malentendu, si elle s'est trompée en croyant ne plus pouvoir vivre avec moi, peut-être y a-t-il eu de l'anémie cérébrale dans son cas, une diminution de l'énergie vitale. Elle se sera fatiguée cet hiver, et voilà tout. Et moi qui arrive 5 minutes en retard. Comme elle est maigre dans son cercueil, comme son petit nez s'est effilé. Ses cils sont comme des aiguilles. Et comme elle est étrangement tombée, elle n'a rien cassé, rien écrasé. Elle a simplement rendu du sang gros comme le poing. Une lésion interne. Ah, si on pouvait ne pas l'enterrer, parce que si on l'enterre, on va l'emporter. Non, on ne l'emportera pas, c'est impossible. Mais si, je sais bien qu'il faut l'emporter, je ne suis pas fou. Me voici de nouveau tout seul avec les gages. Non, ce qui m'affole, c'est de penser que je l'ai fait souffrir tout cet hiver. Que m'importe à présent vos lois, que me font vos mœurs, vos habitudes, l'état, la foi, que votre juge me condamne, qu'on me traîne à votre tribunal, et je crierai que je ne reconnais aucun tribunal. Le juge hurlera « Taisez-vous !» Je lui répondrai « Quel droit as-tu de me faire taire quand une atroce injustice m'a privé de tout ce que j'avais de chair ?»« Ah, que m'importent vos lois ! On m'acquittera, et cela me sera bien égal. » Aveugle, elle était aveugle. Morte, tu ne m'entends plus. Mais tu ne sais pas dans quel paradis je t'aurais fait vivre. Tu ne m'aurais pas aimé ? Soit, mais tu serais là. Tu ne m'aurais parlé que comme à un ami. Quelle joie ! Et nous aurions ri en nous regardant, les yeux dans les yeux. Nous aurions vécu ainsi. Tu aurais voulu en aimer un autre. Je t'aurais dit « Aime-le » et je t'aurais regardé de loin, tout joyeux. Car tu serais là. Oh, tout, tout, mais qu'elle ouvre les yeux une seule fois. Pour un instant, pour un seul, qu'elle me regarde comme tantôt, debout devant moi, quand elle me jurait d'être une femme fidèle. Oh, elle aurait tout compris d'un seul regard. Oh, nature, oh, hasard, les hommes sont seuls sur la terre. Je crie comme le héros russe. Y a-t-il un homme vivant dans ce champ ? Je le crie, moi qui ne suis pas un héros, et personne ne me répond. On dit que le soleil vivifie l'univers. Le soleil se lèvera, et regardez, n'y a-t-il pas là un cadavre ? Tout est mort, il n'y a que des cadavres, des hommes seuls, et autour d'eux, le silence, voilà la terre. Hommes, aimez-vous les uns les autres. Qui a dit cela ? La pendule frappe les secondes indifféremment, odieusement. 2 heures après minuit. Ses petites bottines sont là, près du lit, comme si elles l'attendaient. Non, franchement, demain, quand on l'emportera, qu'est-ce que je deviendrai ?